Europe 1 Soir.
Et place maintenant à l'interview politique d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré.
Oui, et Arlette Chabot reçoit ce soir une candidate à la présidence de la République, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Vous avez vraiment dit ouf hier ou avant-hier, ou vous saviez depuis le début que vous auriez, vous, la possibilité de participer à l'élection présidentielle?
C'est la semaine dernière que j'ai dit ouf, mercredi dernier, où effectivement j'ai déposé les parrainages qui nous permettaient d'avoir les 500 parrainages officiels. Donc à la fois j'étais soulagée et en même temps c'est vrai que j'étais confiante depuis le début, dans le sens où d'abord...
Vous commencez tôt, vous?
Nous commençons tôt, nous les avons toujours eus avec Arlette Laiguiller, et puis parce qu'on peut faire confiance justement dans tous les maires, hein, vous savez, qui sont aussi le reflet de la société. Il y a beaucoup de maires d'origine populaire qui tiennent, y compris à ce que notre voix se fasse entendre. Et puis j'étais confiante aussi parce que je savais que tous mes camarades sillonnaient le pays.
Il y a des candidats de gauche qui disent qu'il y a des pressions, par exemple, épouvantables du Parti Socialiste pour que les élus ne signent pas en faveur de candidats ou d'autres candidats de gauche ou de la gauche de la gauche.
C'est vrai que ces pressions existent. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des pressions d'appareil. C'est pour ça que moi, je pense effectivement que ce système n'est pas démocratique. Hein, c'est pas le sens du pluralisme et de la démocratie des maires qui est en cause là. C'est effectivement les pressions des appareils politiques. Et je pense qu'il serait bien mieux de mettre en place effectivement un parrainage de type citoyen.
Alors, c'est votre première élection présidentielle. Justement, Arlette Laiguiller vous a donné des tuyaux, des conseils. Tu manges pas ça, tu dors. Parce que c'est dur, une campagne présidentielle.
Elle m'a donné un tuyau. En réalité, c'est pas vraiment un tuyau. Mais en tout cas, elle m'a transmis le travailleuse-travailleur.
Ouais. Ça, c'est obligatoire. C'est la marque de fabrique.
C'est plus qu'une marque de fabrique. C'est toute une politique, en réalité. C'est justement nous placer du point de vue des intérêts des travailleurs aujourd'hui, qui sont quand même les grands oubliés. Hein. Dans cette campagne, effectivement.
Pensez qu'on parle que des riches et des très riches qu'on veut taxer?
Oui, d'une certaine façon. Et puis tout ça, c'est le grand cinéma électoral, hein. C'est le grand cirque électoral. Mais effectivement, dire comment on peut augmenter les salaires, les monter au moins à 1 700 euros pour ce qui concerne le SMIC, comment on peut empêcher les licenciements, là, personne ne s'engage, évidemment. Et je comprends bien pourquoi. Hein. Nicolas Sarkozy lui-même est du côté de ces grands groupes, de ce grand patronat et des plus riches. Mais même François Hollande, il ne veut pas les contraindre, les patrons. Donc effectivement, il n'a pas de politique à proposer, aucun engagement à faire vis-à-vis des travailleurs. Et nous, toute notre politique, ça sera évidemment pour défendre, représenter les intérêts politiques des travailleurs.
Alors, faut quand même dire peut-être un mot de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes prof,
oui.
Économie, gestion.
Oui, je suis professeur à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.
Ouais, mais alors quand on est comme vous, représentant de Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle et militante depuis longtemps, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves économie, gestion? C'est un peu teinté de ce que vous pensez. Vous êtes obligé de suivre les programmes tout à fait officiels de l'éducation nationale.
Je fais mon travail comme vous, journaliste.
Oui, mais on m'oblige pas à dire un programme que je ne sentirais pas.
Vous êtes tenu aussi à un certain neutralisme, une certaine objectivité. Eh bien, écoutez, moi, je fais mon travail. Je respecte effectivement les programmes. Et dans tous les cas, vous savez, être enseignant, c'est aussi développer l'esprit critique. C'est aussi justement faire que les jeunes adultes que j'ai en face de moi réfléchissent. Et je vous garantis d'ailleurs qu'ils se posent beaucoup de questions par rapport à cette crise, par rapport au chômage, par rapport à la misère qui monte dans le pays. Donc, ils ont envie de réfléchir et de se forger leurs propres idées.
Alors, vous dites par exemple, et vous ne devez pas l'enseigner, il faut interdire les licenciements. Ça, c'est votre mesure phare. Comment on interdit les licenciements ?
Eh bien, par une loi. Je suis bien consciente que pour l'obtenir, il faudra un mouvement social, il faudra une pression importante de la part des travailleurs.
Mais ça s'applique à tout le monde, générale. Pardonnez-moi, aux entreprises qui sont en faillite, aux entreprises qui se portent bien.
Vous savez,
pour tout le monde la même chose.
Prenez toutes les entreprises qui suppriment des emplois aujourd'hui, que ce soit ArcelorMittal, que ce soit PSA, que ce soit Renault, parce que c'est des plans sociaux qui sont en permanence, que ce soit les Trois Suisses, que ce soit Fralib, que ce soit Cofinoga, qui dépend de la BNP Paribas, qui a quand même accumulé 6 milliards, qui a fait 6 milliards de bénéfices. Vous voyez, c'est pas des groupes qui sont en faillite. Et tous ces groupes-là, eh bien, nous disons que oui, il faut leur interdire de licencier. Et il y a une hémorragie aujourd'hui dans le pays. Écoutez, 900 usines qui ont fermé depuis 3 ans, une usine par jour. Donc, il y a une hémorragie, il faut mettre un garrot. Nous sommes, pour l'interdiction des licenciements. Exactement de la même façon qu'en période d'hiver, on dit que les propriétaires ne peuvent pas expulser de leur logement ceux qui ont un toit. Donc, c'est une période de crise, il faut prendre cette mesure-là qui est urgente encore une fois.
Mais par exemple, pour une entreprise comme ArcelorMittal, vous nationalisez ArcelorMittal ?
D'abord, interdiction de licencier. Si ArcelorMittal veut payer à ne rien faire les salariés de Florange, et bien qu'il les paye à ne rien faire. Mais moi, je suis convaincue que si effectivement on a interdisé ArcelorMittal ou Petroplus, sa raffinerie près de Petit-Couronne, de fermer, et bien tous ces grands manias de l'acier ou du pétrole, ils trouveraient de l'activité effectivement à donner. Ils pourraient répartir, vous savez, l'activité, parce que à chaque fois que des sites ferment, que ce soit le textile là de Saint-Junien, vous voyez que le projet du patronat, c'était de fermer l'usine à Saint-Junien pour faire travailler à Célestat. À chaque fois, c'est cela. Il s'agit de concentrer le travail sur ceux qui restent et de leur en demander toujours plus. Nous, nous disons que c'est l'inverse. Il faut interdire les licenciements et l'activité qui existe, parce qu'il y a toujours du travail, malgré la crise, eh bien, il faut la répartir entre tous les travailleurs avec, évidemment, 100% de salaire, parce qu'on ne peut évidemment pas accepter des baisses de salaire.
Alors, il y a un sujet en ce moment qui est sur la table, c'est celui du prix de l'essence, du prix des carburants. Comment vous faites, vous? Qu'est-ce que vous bloquez, le prix des carburants? Vous baissez la TIPP? Vous faites quoi?
Je pense d'abord qu'il faudrait faire la transparence sur tout ce secteur pétrolier, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est choquant, c'est de voir effectivement ces grands groupes qui annoncent chaque année des bénéfices qui sont exorbitants.
Qui sont souvent faits hors de France aussi.
12 milliards, oui, mais vous savez, ils sont de toute façon faits avec le travail des salariés. C'est toujours des petites mains qui créent toutes ces richesses-là. Donc il faut faire la transparence et il faut effectivement se servir dans ces marges, parce que c'est quand même curieux qu'à la fois effectivement les automobilistes soient pris à la gorge parce que le prix flambe, et que eux présentent des bénéfices qui sont plus que florissants et qui en plus se permettent ces grands groupes de pas payer d'impôts effectivement en France. Donc moi je crois qu'il faut faire la transparence et qu'on puise effectivement sur ces profits de façon à ce que les prix soient corrects.
Il y en a qui doivent vous entendre et se dire, pour un prof de gestion et diplômé d'économie, elle a l'air de s'asseoir sur la dette, les déficits. Comment vous arrivez à concilier les deux? Parce que vous avez fait des études, on vous a expliqué, quand un pays est endetté, il faut s'en sortir, il faut réduire les déficits. Pour vous, c'est deux choses totalement différentes.
Vous savez, la dette et les déficits, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que l'État est endetté, ça c'est vrai. Mais il y a eu des vases communicants, justement, entre les caisses publiques et les caisses privées, et les grandes fortunes. Et les grandes fortunes et les plus grands groupes, ils ne sont pas du tout en déficit. Et même, ils sont assis sur une montagne de trésorerie, de cash. PSA sans vente, Renault sans vente. Vous savez, Renault, par exemple, s'est engagé déjà, à multiplier par 4 les dividendes qu'il allait servir à ses actionnaires pour 2012. Donc, vous savez, ces déficits, cette crise, tout ça, c'est effectivement ce qu'on met en avant pour que les travailleurs acceptent des sacrifices, acceptent des reculs en arrière. Eh bien, nous disons non. S'ils trouvent de quoi servir des dividendes et même les augmenter, s'ils trouvent de quoi payer des PDG 200, 300 fois le SMIC, ils doivent trouver de quoi, effectivement, garantir les emplois et assurer des salaires qui sont dignes.
Alors, vous avez commencé une vraie campagne, mais il y en a un qui a une immense avance sur vous, qui siphonne tout à fait la gauche radicale. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il va prendre la Bastille dimanche. Franchement, vous lui dites chapeau, Jean-Luc.
Jean-Luc Mélenchon rassemble son courant, voilà, mais il est sur son terrain à lui. Il défend sa politique.
Candidat du Parti communiste, du Front de gauche.
Qui n'est absolument pas la nôtre. Et moi, écoutez, ceux qui sont convaincus par Jean-Luc Mélenchon voteront pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais tous ceux qui ont en mémoire et qui ont encore sur le cœur la politique qui a été menée à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, menée par Mitterrand, menée ensuite par Jospin, tous ceux qui ont encore sur le cœur toutes ces déceptions passées, eh bien ils n'ont aucune raison de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est cette politique-là qu'il veut effectivement remettre. C'est cette politique. Écoutez, bien sûr il est critique vis-à-vis de Hollande, mais il est d'accord avec une chose. Avec Hollande, c'est qu'ils auront à gouverner ensemble.
Ils veulent que la gauche gagne, en tout cas au second tour, le mieux placé se désistera pour en faveur du mieux placé, le second.
Oui, mais
c'est pas votre cas, parce que de toute façon...
Vous savez, c'est la politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement cette politique qu'on connaît bien, d'essayer de peser, qui est sur le Parti Socialiste, quand on est au gouvernement, c'est une politique qui a été menée par le Parti Communiste.
Il pèse en ce moment déjà sur la campagne Jean-Luc Mélenchon, la taxation, les riches, les impôts, non ?
Je trouve
qu'il pèse
que
pas.
Ça n'a pas beaucoup d'effet sur Hollande, vous voyez. Hollande, de ce point de vue-là, regardez comment Hollande, au contraire, cherche à rassurer les marchés financiers, donne des gages que s'il revient au pouvoir, attention, il ne gouvernera pas à gauche. Hein.
Mais vous dites, non, moi je suis loyal. Communiste, Jean-Luc Mélenchon, non. Bah, il est aussi le candidat du PC, pourquoi il ne serait pas... Non, s'il n'y a que vous, candidat communiste.
Vous lui avez déjà demandé s'il était communiste.
Bah, écoutez, il est pas communiste.
Vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon...
Mais vous, vous êtes trotskiste, donc c'est pas la même chose non plus.
Ah, alors Jean-Luc Mélenchon, il est socialiste. Et d'ailleurs, il le dit, il s'en cache pas. Et il explique que son modèle, c'est Mitterrand. Il est Mitterrandolâtre, Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, moi, je suis trotskiste parce que c'est la seule façon de se revendiquer du communisme, du communisme révolutionnaire de cette idée que oui, cette société capitaliste, quand même, elle montre toute sa faillite et qu'il faudrait la changer de fond en comble et que les travailleurs eh bien, ils prennent le contrôle finalement de cette économie. Alors voilà, tous ceux qui sont convaincus, qui pensent cela, qui partagent ces convictions-là avec moi, eh bien, il faudra qu'ils votent effectivement pour Nathalie Arthaud.
Donc c'est votre premier adversaire ? C'est votre premier adversaire, Jean-Luc Mélenchon ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi, je dis que ceux qui sont convaincus qu'il faut refaire un mai 68... qu'il faudrait refaire un mai 68, que notre sort, le sort des travailleurs dépend de cela. Qu'il faut refaire un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, pour imposer l'indexation des salaires, l'échelle mobile des salaires, pour imposer un contrôle des travailleurs sur l'économie, eh bien, ils pourront le dire dans cette élection en votant pour Nathalie Arthaud. Ça sera un vote qui préparera les luttes à venir, vous voyez, et ça sera de ce point de vue-là un vote très utile.
Nicolas.
Deux questions d'auditeurs, Nathalie Arthaud, pour vous en moins d'une minute. Manuela, on vient de l'évoquer, mais elle vous repose la question très clairement. Au deuxième tour, est-ce que vous appelez à voter pour quelqu'un?
Alors, on prendra la décision, comme toujours, le soir du premier tour. Parce que moi, cette campagne, je tiens bien à la faire en expliquant que, justement, le sort des travailleurs ne va pas dépendre de qui occupera l'Élysée. Il va dépendre, en fait, de la crise, de son aggravation. Et personne ne peut croire une seconde que les licenciements s'arrêteront le lendemain du 6 mai, que les salaires, miraculeusement, augmenteront. Personne ne
peut
croire.
Donc, au soir du premier tour, vous décidez si vous appelez à voter François Hollande ou pour personne parce qu'on
Nous déciderons
vous...
en fonction de la situation politique de ce jour-là.
Une question de Julien qui voudrait connaître la position de Lutte ouvrière sur le mariage homosexuel.
Nous ne voyons pas pourquoi on priverait les homosexuels de ce droit-là. Voilà, nous pensons que c'est un droit qui doit être accordé à tous, même si, moi, de mon point de vue, je suis favorable à l'union libre, mais tout le monde doit choisir. Et en tout cas, pour nous, c'est les mêmes droits, effectivement.
Et pour l'adoption, pareil ?
Oui. Pareil, parce que je pense effectivement que le principal, le plus important, c'est que les enfants soient confiés eh bien, à ceux qui les aiment.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière à lundi, Arlette Chabot.
Bah, j'espère, bien sûr.